Là, nous nous retrouvons donc pour, avec Marco Wings de Artoir, qui est le film qui a été programmé hier soir à 21h.
Ich bin selbst Künstler, also ich habe selber Kunst studiert an Basel, an der Kunstakademie.
Je suis moi-même artiste et je fais des études à l'Académie de Weißensee à Berlin.
Also in der DDR-Zeit war ich Model und Künstler gleichzeitig.
À l'époque de l'RDA, j'étais modèle et artiste en même temps.
Ich war Model beim kommunistischen Modeinstitut der DDR, staatlich zertifiziert.
J'étais un modèle à l'agence artistique de mode qui était où j'étais certifié par l'État.
Da habe ich auch einen Film gemacht, der heißt Comrade Couture.
Là-dessus, j'ai fait aussi un film qui s'appelle Comrade Couture.
Der Film war vor Artwork.
Avant Artwork.
Und eröffnete, oder beziehungsweise die Premiere war im Panoramaprogramm der Berlinale.
Et la première était de l'intérieur du programme de Berlinale, le Panorama. C'est une
Ja, das ist eigentlich das beste Programm der Berlinale.
Il y a plusieurs programmes à l'intérieur de la Berlinale et le Panorama, je pense, c'est le meilleur.
66 Festivals und inklusive das Museum of, Museum of Modern Art in New York.
Ce film a été montré sur 70 festivals et aussi dans le musée de Modern Art à New York, de Montmartre.
Alors, quand tu nous parles de la mode, de modèle, bien sûr, surtout ici, on n'est pas à Cannes, au Festival de Cannes, donc ça nous fait sourire. Mais en fait, dans ce film, il me semble que tu nous parles de la mode et des artistes en RDA, la mode comme quelque chose de subversif, d'individualiste et de contestataire par rapport au régime allemand de l'époque.
Genau.
Exactement.
Es gab eine Schlagzeile in der Taz, deutsche Zeitung, die stand Widerstand aus Duschvorhängen.
C'est exactement ça. Il y avait dans un quotidien allemand un grand titre, la résistance faite par des rideaux de douche.
Weil eine Teil der Kollektion war aus Duschvorhängen und Eingeweidetüten und Erdbeerfolie.
Parce qu'une partie de cette collection était faite par des rideaux de douche, des sacs pour congeler et comment on appelle ça, ces plastiques qui couvrent les fraises.
Les
bâches alimentaires, donc voilà.
Deswegen ist der deutsche Titel des Films auch ein Traum in Erdbeerfolie.
C'est ce qui fait que le titre allemand est un rêve en bâche fraise.
So, das ist die legendärste Kollektion der Mode Underground Gruppe im Film, die Chic Charmant und Dauerhaft heißt.
C'est un groupe underground de Berlin qui s'appelle Chic Charmant et Underground.
Dauerhaft. Ja, nicht underground. Dauerhaft.
Donc c'est chic, durable et underground.
Und chic, charmant und dauerhaft.
Chic, charmant et durable, voilà. Ja.
Und diese Kollektion, die liegt im Museum für deutsche Geschichte im Kühlschrank, ist sozusagen ein Kunstwerk der deutschen Geschichte mittlerweile.
Et cette collection est devenue une partie de l'histoire artistique allemande parce qu'elle est au frigo maintenant.
Und für den Film haben wir die sogar nachgeschneidert, weil die natürlich im Museum liegt, mussten wir die Kollektion aus Erdbeerfolie und Duschvorhängen komplett nachschneidern.
Alors pour le film, on a dû reconstruire la collection en fraises et en bâches de fraises.
Du coup, et après on fera le lien du coup avec Arroir, quand tu parles dans ton film de ces artistes, qu'est-ce que tu veux pointer sur la situation RDA à l'époque et comment toi tu te positionnes à cette époque-là? Je ne sais pas quel âge tu avais dans les années 80.
Das Interessante an der Situation in der DDR war, dass die DDR selber ein sehr repressiver Staat war, so ein sozialistischer Gleichmacherstaat. Andererseits war in den Nischen, die die Staatssicherheit oder das System nicht kontrollieren konnte, eine unglaubliche Kreativität möglich.
Ce qui était intéressant, que c'était un régime très oppressant, le RDA. En même temps, il y avait des niches dans lesquelles il y avait une énorme créativité et liberté artistique.
Oui, justement, cette niche de liberté. Quel que soit l'état totalitaire, il semble que tu développes l'idée qu'il y a toujours matière, et plus c'est tyrannique, sans parler de la Stasi, la Gestapo ou Tahrir aujourd'hui en Égypte, plus c'est tyrannique et plus il y a des émergences de création libre. C'est comme ça que tu le vois?
Ja, also im Grunde genommen macht es ja auch Spaß, also dagegen zu sein. Und wenn man sehr jung ist, dann macht das ja noch mal Spaß. Das ist ja total cool eigentlich auch in der Gruppe. Die Mädchen hümmeln alle an und so. Und es war in der DDR so im Underground und in Ägypten ist es auch nicht anders.
Oui, et en fait, c'est aussi un grand plaisir d'être contre, de se révolter contre, et bon, aller rue par les filles. Et c'était pareil en Égypte et comme en RDA.
Et depuis la chute du mur de Berlin, il semble qu'il y ait une jeunesse qui soit restée à l'Est, on ne peut plus parler de l'Est pour l'Allemagne aujourd'hui, et qui est très déçue, qui ne voit pas les bienfaits de l'ouverture au monde capitaliste occidental. Est-ce que les conditions de la création artistique ont changé pour eux?
Tu as parlé de l'Allemagne là,
ouais, depuis
89.
Ja, das ist die traurige Geschichte an dem Film, dass fast keiner von den Künstlern, die sehr berühmt waren in der DDR und danach von der Zeit, tatsächlich jetzt in diesen Kapitalismus sich rübergerettet hat und zum Beispiel in John Paul Gaultier Label eröffnet hat oder so, ja. Das vermisse ich sehr, weil die Mode hatte diese Qualität.
Oui, l'histoire ou l'aspect triste de cette histoire, c'est qu'il y a quasiment aucun artiste de l'RDA qui a pu survivre avec le pays qui se réunifie. Et pourtant, je pense qu'il y avait des artistes qui avaient la même qualité, comme un Jean Paul Gaultier, par exemple.
Und das hat damit zu tun, dass ein völlig anderes System war und diese Kreativität völlig anders funktioniert hat. In der DDR spielte Geld überhaupt keine Rolle. Im Gegenteil, also es war auch uncool, es war auch verpönt eigentlich. Ja. Es ging nur um diese Inszenierung, um diesen Lifestyle, angefangen von Oldtimer-Autos, mit denen man zur Mondschau gefahren ist, Freunde, Partys und so weiter. Es war eine totale hedonistische Welt.
Ça vient surtout du fait que le mode de fonctionnement de cette création artistique était nullement basé sur l'argent. C'était même mal vu et ça produit une grande créativité. Donc on prenait des voitures, des oldtimers. On faisait tout un style de vie très hédoniste en fait.
Das war aber in der DDR natürlich auch einfach, weil man für eine Wohnung 20 D-Mark, 10 Euro Miete bezahlen musste.
C'était facile aussi parce que, par exemple, pour un appartement, on payait 10 euros de loyer.
Und das war natürlich die größte Herausforderung auch für mich selber als Filmemacher, dass man ab einem bestimmten Punkt alles, was man macht an kreativer Arbeit, ist gleichzeitig Ökonomie. Das heißt, du musst von vornherein im Grunde den ganzen ökonomischen Prozess, das gilt für alle Leute im Team. Und das ist komplett neu und da sind eigentlich fast alle gescheitert aus der Gruppe, aus der Underground-Gruppe, dass sie diese Transformation nicht geschafft haben. Von wir arbeiten alle nur aus Spaß zusammen zu ich bin jetzt sozusagen der Manager und Organisator von einem Modelabel, von einer Modenschau, wo ganz viele Leute auch Geld mit verdienen für ihre Miete und so weiter. Das haben die nicht geschafft.
En fait, le plus grand challenge, et c'est ce qui est triste, que après, avec cette rentrée du capitalisme, il fallait changer complètement le mode de fonctionnement et penser la création aussi en termes de rentabilité et de rentrée d'argent. Et pour moi aussi, c'était un challenge à prendre. Et il y a une très grande partie de mon groupe ou mon collectif qui n'est pas arrivé.
Es gibt zum Beispiel eine Szene im Film, wo die Protagonistin, weil sie damals auch so berühmt war, von einer Pelzfirma gefragt hat, ob sie eine Kollektion entwerfen kann. Und sie nimmt dann diese Pelze, die war ein unglaubliches Vermögen, kosten Nerz und so, und zerschneidet die alle und setzt sie so als Patchwork zusammen.
Il y a par exemple une scène dans le film où il y avait une des protagonistes femme qui était demandée par une grande entreprise de fourrures si elle voulait travailler avec eux. Et elle prend donc ces fourrures qui sont très précieuses, des bisons, et etc. Elle les coupe en morceaux et ça fait des petits patchwork.
Das war Sabine von Oetting, die wurde dann natürlich nicht die Chefdesignerin von der Pelzfirma.
C'était Sabine von Oettingen qui, bien sûr, n'est pas devenue la designer chef de cette entreprise de fourrure.
Bien sûr, quand on est artiste, on est par essence rebelle à un pouvoir, à une autorité, à des lois, à des règles, pour en inventer peut-être d'autres. Est-ce que l'expression artistique aujourd'hui de la jeunesse allemande, dans sa totalité, est dirigée contre le pouvoir, ou plutôt pour exprimer quelque chose de nouveau, bien particulier, à l'esprit, à l'âme allemande?
Also ich glaube, wenn man gegen was ist, das ist keine Kunst, das ist dann Propaganda.
Je crois être simplement contre quelque chose, c'est pas d'art, c'est la propagande.
Ich glaube, ein Künstler, die Funktion von einem Künstler ist, ganz tief reinzugehen und in die Konflikte zu gehen. Und heute ist eher das Problem, dass wir das Problem haben mit der politischen Korrektheit.
Je pense la fonction d'un artiste, c'est plutôt de plonger vraiment au fond des choses. Et la problématique, c'est pour un artiste aujourd'hui, dans ces conflits politiques, c'est d'être politiquement correct.
Ich glaube, es geht darum, als Künstler die wahre Natur der Dinge zu erkennen und zu zeigen und keine Angst in keinerlei Hinsicht zu haben und Dinge zu sagen, die sich eigentlich kein anderer traut zu sagen. Ich glaube, das ist wirklich die Funktion von einem Künstler in der Gesellschaft, die maximale Aufmerksamkeit auf Dinge zu richten, die aus verschiedenen Gründen diese Aufmerksamkeit nicht haben.
Je pense vraiment la tâche d'un artiste, c'est de tirer l'attention maximale sur des choses qui normalement sont pas vues et de ne pas avoir peur de dire des choses qui sont mal vues et de vraiment aller au cœur des choses.
Alors du coup, ça m'amène à... On peut basculer sur Artoir. Et puisque quelque chose, moi, qui m'a marqué dans ton film, c'est ce sentiment que tu t'étais effectivement immergé, tu avais plongé aux côtés des artistes égyptiens. C'est pas un regard de l'extérieur. Et du coup, comment tu as fait ce voyage de devenir un artiste dans les rues égyptiennes en venant de RBA?
Naja, erstmal war das Konzept des ganzen Films, dass ich reingehe und die Welt mit den Augen von den Künstlern sehe. Das war ein einfaches Konzept.
Le concept était déjà d'abord que je rentre dans ce monde des artistes et je vois le monde avec leurs yeux.
Und das haben die Künstler auch eigentlich von Anfang an verstanden und deswegen mich auch zugelassen, auch wenn es natürlich eine Menge Schwierigkeiten gab beim Drehen, aber im Kern, deswegen zeigt doch jeder sein Gesicht zum Beispiel, war das klar, was ich will und damit waren sie einverstanden. Die wollten, dass ich ihre Arbeit dokumentiere oder zumindest ihre Aussagen. Also beim Drehen war es manchmal schwierig, wegen der Gefahrenlage, aber sie wollten auf alle Fälle, dass ihre Kunst verbreitet wird und noch mehr Wirkung entfaltet.
Les artistes étaient au fond, ils étaient d'accord avec ça, de m'inclure dans leur groupe, et ils avaient vraiment envie aussi que leur travail soit connu. Après, dans les détails, parfois c'est devenu difficile, surtout dans les tournages précisément.
Und für mich persönlich war das toll, sozusagen mitten in einer Revolution zu sein, die zu filmen und zu dokumentieren, weil bei meiner eigenen Revolution 1989 war ich ja nur dabei. Das habe ich nicht direkt gefilmt und bin ich einfach mitgesprungen wie so ein Fisch. Und diesmal hatte ich wirklich die Chance, junge Menschen, die im gleichen Alter waren wie ich 1989, dabei zu filmen, wie sie sozusagen mit so einem historischen Umbruchsprozess umgehen.
Alors pour moi c'était excellent en Égypte de faire partie de ce mouvement et en même temps de pouvoir le filmer. En fait j'étais avec des gens qui avaient le même âge que j'avais en 89. Là j'étais aussi dans la rue mais j'ai plongé plus comme un poisson dans la foule et j'étais pas en train de filmer.
Oui, il y a la prise de risque artistique mais la prise de risque aussi physique, personnelle.
Voilà,
ça n'a pas été...
La scène du t-shirt.
Notamment la scène du t-shirt le montre très bien. Comment toi aussi, filmant la scène, tu as été impliqué dans cette bagarre.
Ja, so ist es halt.
Sie kommt da.
Wer A sagt, muss auch B sagen. Das ist ja die Konsequenz, wenn man einen Film anfängt.
C'est la conséquence du film, si on dit A, il faut dire B aussi.
Und wenn ich, ich habe die Kämpfe erst sehr spät gedreht, weil ich dachte, das ist ein ganz existenzieller Bestandteil des Prozesses. Also diese Art von Zerstörung oder diese entfesselte Gewalt der Jugend im Grunde genommen auch, ja. Das habe ich relativ spät erst einmal, aber ich war fest überzeugt, dass es ganz existenziell notwendig ist für den Film. Deswegen habe ich das gemacht.
En fait, les scènes de lutte et des bagarres ont été tournées un peu plus tard dans le processus, mais il me semble essentiel, vraiment très important, parce qu'ils font partie de ce qui s'est passé avec toute cette violence qui s'est déchaînée, qui est aussi la violence de la jeunesse.
Und ich habe es auch nicht auf eine journalistische Art gedreht, sondern auf eine künstlerische Art und Weise. Also ich habe einen ganz bestimmten Blick gehabt auf diese Kämpfe, die eher wie so ein Ballett sind. Ja? Es gibt so ein Bild auch, was ich auf der Facebook-Seite habe, von einem Protester mit einem Molotow-Cocktail und einer prima Ballerina in Tränengasnebel. Ich fand, es ist sehr passend. Interessanterweise habe ich auch Material von den Ägyptern benutzt, aus meiner Gruppe, hatten die eigentlich den gleichen Blick. Das hat mich total erstaunt. Am Ende, als ich das Material von denen genommen habe, habe ich manchmal das gar nicht unterscheiden können von meinem. Das heißt, wir haben irgendwie auf die gleiche Art, sagen wir mal, auf eine ähnliche Art und Weise geschaut.
Alors, ce qui t'intéresse, moi j'ai essayé de filmer ça, pas d'une manière purement documentaire, mais avec un œil d'artiste. Et parfois, les bagarres dans la rue ressemblent presque à une danse de ballet, ou un jeune qui jette un Molotov cocktail, qui comme un danseur de ballet. Et la chose qui était intéressante, les autres artistes dans mon collectif, quand on regardait nos matériaux en commun, et ils avaient le même regard, en fait.
Ja, also, Leute aus der Gruppe haben natürlich auch gefilmt.
Parce que les autres gens du groupe, ils ont filmé aussi.
Mehr eher als Aktivisten. Das Problem war, dass vieles Material relativ schlecht war von der Qualität. Und ich habe natürlich einen sehr hochwertigen, das hat man ja gesehen, ja, also das ist total scharf auf einer 20 Meter Leinwand. Das ist eine sehr gute Kamera. Und die ist natürlich auch sehr teuer. Das heißt, wie mussten wir denn, wenn die Ägypter für meinen Film gedreht haben, mussten wir die immer extra bieten.
D'accord. Bon, effectivement, ils ont filmé aussi, mais ils avaient bien sûr pas le même matériau ou équipement pour filmer, parce que moi j'avais de très valables caméras, etc., pour des grands écrans, etc. Donc pour eux, ce qui sortait en résultat, c'était une qualité mineure.
Also, wir haben ja, ich hatte ja 7 Reisen gemacht in einem Zeitraum von 2,5 Jahren. Und ich konnte natürlich nicht immer dabei sein. Also manchmal sind Dinge einfach passiert. Und ich habe immer mindestens 4 Tage eigentlich gebraucht, um nach Ägypten zu kommen. Mit Flugbuchungen und so weiter, Reservationen. Das heißt, manchmal ging es so schnell, dass jemand drehen musste. Dann habe ich angerufen und gesagt, du musst jetzt eine Kamera rein. Und dann ist sie ja für eine Woche verschwunden. Ich wusste gar nicht, ob er irgendwas gemacht hat. Dann hat sich nach einer Woche dann wieder gemeldet. Ich habe dann über einen Stewardess, so ein Ägypter, ihm Geld geschickt. Und das Material ist auf den gleichen Weg auch mit dem Flugzeug wieder zurückgekommen.
Alors, j'ai fait ce film pendant 2 ans et demi. J'ai fait 7 voyages pour le faire et je pouvais pas être toujours sur place quand les choses se sont passées. Et ça m'est arrivé. Ça prenait 4 jours à peu près, presque, d'organiser tout avec le billet, etc. Et ça m'est arrivé d'appeler, par exemple, à Doud. Je disais, voilà, il faut que tu filmes absolument. Je t'envoie l'argent à travers un steward de l'Egypter, il a reçu l'argent, il a disparu pendant une semaine, on ne savait même pas ce qui lui était arrivé. Et après, par la même voie, j'ai reçu le matériel après.
20% oder ungefähr im Film sind von den Ägyptern.
Environ 20% du film vient des artistes égyptiens.
Und es gab auch noch eine andere Gruppe von Bildern, die ich nicht drehen konnte, weil sie zu gefährlich waren, wie zum Beispiel diese Szene mit den Muslimbrüder, Milizen, die kannst du als Ausländer nicht drehen.
Il y avait aussi des scènes que simplement je pouvais pas filmer parce qu'ils étaient trop dangereux. Cette scène avec le milice de musulmans de faire c'était pas possible.
Weil de facto sind es Terroristen und Abdu hat sich verkleidet als Hamas Mitglied sozusagen. Er hatte so ein Palästinensertuch und so, weil die Muslimbrüder sind ja Partnerorganisation von der Hamas.
Ja.
Und er hat so Rasterlocken, die durften ihn natürlich nicht sehen, weil die hätten ihn sofort als Liberalen verraten. Also hat er so ein Palästinenser, also er hat sich richtig verkleidet. Und die kam auch unter dem Auto versteckt, als es brenzlig wurde. Also war sehr gefährlich, was er da gemacht hat.
En fait, parce que ces milices, c'est vraiment des terroristes qui sont liés à la masse aussi. Donc Abdou, il s'est déguisé en tant que membre de la masse avec le cheikh palestinien. Il avait des cheveux rasta qu'il fallait absolument cacher parce que ça l'aurait trahi en tant que libéral. Il avait à un moment donné aussi la caméra sous la voiture. Donc c'était vraiment extrêmement dangereux ce qu'il a fait.
Oui, j'avais une remarque, une question. J'ai vu le film hier. En effet, c'est un film très dynamique et aussi quand même très violent. Vous avez pointé le focus sur une certaine classe et en ville. On est dans un milieu urbain. Sauf quand des artistes va voir à la campagne, mais ces gens-là, pour s'inspirer des peintures murales, mais ces gens-là ne bougent pas. Et c'est vrai que l'Égypte, c'est immense. Et ça vient à la suite de ma question, c'est que votre film s'arrête avant que les militaires donc prennent le pouvoir. Alors qu'en est-il des fresques murales, est-ce qu'elles existent toujours? Et que savez-vous de la situation actuellement de ceux que vous avez filmés à cause de la dictature militaire? Et est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas un autre film à faire sur tout le reste de l'Égypte, parce que c'est un immense pays
Die Situation hat sich natürlich ganz schlimm entwickelt. Deswegen sind ja auch zwei meiner Künstler aus Ägypten sozusagen geflohen.
Die Situation ist effectivement évolué au pire, et ça fait qu'il y a aussi deux copains artistes ont fui l'Égypte.
Nach dem Sturz von Morsi waren eigentlich erstmal alle froh, also auch meine Künstler, die waren eigentlich alle gegen Morsi.
Après la chute de Morsi, d'abord tout le monde était content, mes artistes aussi.
Aber die Erwartungshaltung war natürlich, dass jetzt die Demokratie wieder weitergeht und er wurde natürlich abgewürgt vom Regime.
En fait, l'attente était que l'évolution démocratique reprenne son chemin, mais ça a été par le régime complètement étranglé.
Und im Grunde genommen ist es eigentlich immer schlimmer geworden bis heute. Viele Leute sind verhaftet und wie gesagt, zwei der Künstler des Films mussten fliehen. Aus dem einfachen Grunde bei Ghazir war es ganz konkret. Sein Foto wurde im Fernsehen gezeigt, er wurde als Terrorist bezeichnet und als Unterstützer der Muslimbrüder, ausgerechnet Ghazir, ja.
Alors, en fait, tout s'est empiré énormément. Par exemple, Ghazir, un des artistes, était montré à la télévision et désigné en tant que terroriste muslim, des frères muslim.
Was natürlich überhaupt nicht stimmt.
Ce qui est absurde.
Und, das Problem ist gerade, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie damit Erfolg haben. Sie versuchen wirklich dem ägyptischen Volk zu erzählen, wenn ihr Demokratie haben wollt, dann wird es so wie bei den Muslimbrüdern. Und sie behaupten auch, es war eine islamistische Revolution.
Alors le régime actuel raconte au peuple, si vous voulez avoir une démocratie, ça va devenir comme c'était chez les frères musulmans, et que la révolution qui a eu lieu avant, c'était une révolution de frères.
Und da die Ägypter natürlich keine Erfahrung in der wirklichen Demokratie haben, glaube ich, hat es auch Erfolg, diese Propaganda. Und es ist sehr traurig im Grunde genommen. Also im Grunde genommen haben die Muslimbrüder viel größeren Schaden angerichtet, eigentlich als man denkt.
Comme les Égyptiens n'ont pas d'expérience avec la démocratie, donc ils croient plus ou moins cette chose. Et pour ça, je pense que les frères musulmans ont fait beaucoup plus de dommages à la langue qu'on voit au premier aspect.
Also im Grunde genommen alle liberalen Kräfte stehen eigentlich zwischen zwei Fronten. Das sieht man jetzt ja auch in Tunesien. Warum gibt es ausgerechnet solche Terroranschläge in Tunesien? Weil Tunesien auf dem richtigen Weg ist und sich befreit. Ja? Deswegen gibt es diese Terroranschläge von Islamisten da. Und dieser Konflikt ist schon wahnsinnig existenziell.
En fait, ceux qui ont une pensée libérale, ils sont un peu entre deux feux. Et on voit ça maintenant en Tunisie aussi. Pourquoi la Tunisie est agressée par le terrorisme? Parce que justement, ils sont sur la bonne voie.
Und ich finde, das Problem beim Westen ist, dass der Westen es nicht versteht. Also dass der Westen nicht erkannt hat, das fing damals 2011, 2012 an, dass der Westen viel zu wenig die demokratischen, liberalen Kräfte unterstützt hat. So, oh, wir sind neutral. Aber alle anderen haben den Muslimbrüdern Milliarden gegeben, die aus Katar und so weiter, ja, haben massiv die Islamisten unterstützt oder das Militär, je nachdem. Und die Demokraten hatten eigentlich gar keine Unterstützung.
Moi, je pense que l'Occident n'a pas compris, comprend toujours pas bien, qu'il aurait fallu vraiment donner du soutien au mouvement démocratique. Ils étaient dans une position, on est neutre. Et les islamistes ont reçu des sommes délirantes du Qatar, d'autres pays. Et les démocrates, ils ont pu voir où ils restent avec tout ça.
Und das Gleiche ist eigentlich auch mit der Absetzung von Morsi, weil zum Beispiel, wenn man sagt, es war ein Militärputsch, das stimmt ja so nicht. Im Grunde genommen ist Morsi zurückgetreten worden von den Ägyptern, also an allererster Stelle. 20 Millionen Ägypter sind auf der Straße gewesen, wochenlang, um den Sturz der Muslimbrüder herbeizuführen.
En fait, la chute de Morsi, une prise de pouvoir par les militaires, mais avant ça, il y avait 20 millions d'Égyptiens qui étaient tout le temps dans la rue, qui voulaient donc ensemble les départ.
Die Revolutionsjugend hat die Muslimbrüderzentrale gestürmt, bevor das Militär überhaupt eingegriffen hat. Ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen vorher. Sie haben mit Scharfschützen und 8 Jugendliche erschossen und die haben trotzdem diese Muslimbrüderzentrale gestürmt und sie runtergebrannt. Also das Hauptquartier. Es war eigentlich schon ein Bürgerkrieg, der war im vollen Gange. Und das Militär hat im Grunde eigentlich diesen Bürgerkrieg gestoppt.
Donc là, il y avait la jeunesse révolutionnaire qui a vraiment pris en assaut la centrale des frères musulmans. Il y avait beaucoup de morts. Avant que le militaire ait intervenu, c'était une situation de guerre civile. Et après, le militaire est intervenu pour stopper cette situation.
Und wenn Präsident Sisi sagt, sie sind ein Bollwerk gegen den Islamismus, dann stimmt das auch. Und natürlich sind sie gleichzeitig sehr undemokratisch und unterdrücken die eigene demokratische Kraft und Land. Das ist halt, sind halt diese zwei Seiten, aber man darf auch die andere, ich sage es mal, positive Seite nicht vergessen.
Si le,
oder unausweichlichere Seite.
Si le président actuel dit, on est une sorte de rempart contre les islamistes, il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais on ne doit pas oublier ce qui s'est passé avant.
Oui. Dans le film Art War, il faut rappeler que ça veut dire en français la guerre à l'art, c'est-à-dire aux artistes, et qu'on en tue souvent. Il y a dans le film ce qui ressort très fort, et Chantal en a parlé, de la violence permanente, le risque de mort permanent. Mais face à ce rapport de force, les artistes opposent très souvent une esquive, des feintes, une autre façon de répondre que par la force. Il y a la force de l'art. On peut tuer des artistes, on ne peut pas tuer des idées. C'est un peu un jeu du chat et de la souris. Nous, on aime bien que la souris gagne et puisse s'échapper. Mais à la fin de l'histoire, le chat est plus fort, il devient lion.
Glaube ich nicht.
Moi, je pense pas.
Es gibt einen Ausspruch auch von Margaret Mead, nicht nur von ihr. Sie hat gesagt, man denkt immer, dass sie Massenrevolutionen machen. In Wirklichkeit sind es immer kleine Leute mit besonderen Ideen und mit besonderem Willen und Durchsetzungskraft.
Il y a une phrase de Margaret Mead qui dit, on pense toujours que c'est la foule qui fait des révolutions, mais en fait, en réalité, c'est une petite groupe qui perce, qui a une énorme chose à dire aussi.
Ich rede nicht von einer physischen Umwälzung oder von Wahlen oder so weiter. Das ist nicht die Funktion von einem Künstler. Die Funktion von einem Künstler ist Bewusstseinsveränderung, beziehungsweise den Prozess zu initiieren, in dem sich das Bewusstsein verändert.
Moi, je parle pas des votes ou des changements de gouvernement, etc. Je parle du fonctionnement de l'artiste, qui est de changer la conscience, en fait.
Also wenn man zum Beispiel, glaube ich, am Anfang der französischen Revolution eine Bewertung abgegeben hätte, hätte man gesagt, oh, alles ist schiefgegangen, Mord und Totschlag, und ständig werden Leute hingerichtet und die Revolution hat total versagt. Aber 100 Jahre später sieht es ganz anders aus.
Si au début de la Révolution française, on aurait dit, mais regardez ce qui se passe, il y a que des meurtres, c'est terrible, etc. Mais 100 ans plus tard, on voit finalement le résultat.
Und auch Immanuel Kant hat zum Beispiel gesagt, dass wenn ein Volk einen Diktator einmal gestürzt hat, geht dieses Wissen, dass man einen Diktator stürzen kann und dass man sich nicht unterwerfen muss, hält an für mindestens eine Generation. Das heißt, die Ägypter werden es nicht vergessen, was sie 2011 geschaffen haben.
Il y a Immanuel Kant, donc c'est un philosophe allemand, qui a dit quand un peuple a vécu une fois cette expérience qu'un régime peut être renversé, ça reste dans les têtes et ça reste au moins pendant une génération là. Et je pense que le peuple égyptien a gardé cette conscience.
Also weiß keiner, wie lange es dauert, und wir werden sehen. Ja.
On ne sait pas combien de temps ça va durer, on verra, mais.
Alors, Marco, je reviens sur le film à toi, notamment les personnages. Je les trouve tous plus beaux les uns que les autres. Est-ce que tu peux parler un peu plus de cette fille qui est complètement émancipée? Nous, notre regard occidental, on a du mal à imaginer que dans un pays où il y a de telles empreintes religieuses, de rencontrer une fille aussi émancipée, est-ce que toi, tu pensais pouvoir rencontrer ce genre de personnage, la chanteuse à la fin, voilà. Est-ce que tu peux parler un peu plus de cette personne? Voilà, moi je trouve qu'elle sort elle crève l'écran et puis on ne s'attend pas à rencontrer ce genre de personne en Égypte.
Ja, deswegen ist sie auch im Film. Also ich habe sie deswegen auch in den Film genommen. Ich habe lange nach einer Frau gesucht. Das war gar nicht so einfach. Jemand, der so das Level hat von Ganzir und von Amar, also dieses Führungslevel eigentlich auch in der Innovation als Künstler so beeinflussend für alle anderen zu sein.
C'est en fait la raison pour laquelle j'ai choisi. J'ai longtemps cherché une femme. C'était pas facile de trouver quelqu'un qui a le niveau comme Ganzar et etc. Un peu niveau très très avancé, très poussé et qui est prête à s'exposer avec ça.
Sie ist nicht eine Aktivistin wie die anderen. Sagt sie auch, sie sagt, sie lebt in ihrer Bubble, in ihrer Seifenblase und macht da ihre Kunst. Das ist ein großer Unterschied. Aber in dieser Seifenblase ist sie so eine radikale Individualistin, dass ich dachte, das ist genau das Gleiche, worum es geht. Also es geht um diese totale individuelle Freiheit.
En fait, elle n'est pas une activiste comme les autres. Elle vit un peu dans sa bulle. Mais à l'intérieur de cette bulle, elle va très loin et dans une liberté totale.
Also, sie tritt ja zum Beispiel auch in Berlin auf schon mehrmals. Da ist sie natürlich total gefeiert, dass da in Ägypten wird sie selbst in ihrem hippesten, modernsten Club, Jazzclub ausgebucht. Ja.
En fait, elle était déjà passée à Berlin. Elle a fait des concerts à Berlin. Là, elle est la grande vedette. Mais en Égypte, même dans les clubs le plus hype, elle est très mal vue.
Nun muss man natürlich dazu sagen, dass sie aus einer gesellschaftlichen Oberschicht kommt. Das heißt, ihre Mutter ist eine ganz berühmte Schauspielerin, ihr Vater hat Fabriken und sie hat selbst in London studiert.
Il faut quand même ajouter qu'elle vient d'une haute bourgeoisie, sa mère est une comédienne très connue, son père possède des usines, elle a fait des études à Londres en fait.
Und sie ist eine bekannte Designerin. Sie ist als Designerin sogar sehr viel bekannter als Sängerin in Ägypten.
Justement, c'est sehr viel.
En fait, elle est une créatrice de mode très connue aussi. Voilà,
c'est ce que je trouvais. Ces personnages avaient ce côté. On sent que c'est une partie d'une population égyptienne hautement intellectuelle, éveillée à l'ouverture du monde et privilégiée quelque part. Et c'est eux qui amorcent aussi une révolution et qui descendent dans la rue au travers de leur travail, de leur art. C'est, voilà, j'ai senti que c'était quand même des jeunesses qui étaient très privilégiées, qui étaient dans une... Et c'est tant mieux, ces jeunes.
Avec cette fille, oui, mais pas forcément les autres.
Ils sont privilégiés dans le sens qu'ils sont besonders créatifs et besonders populaires. Aber das haben sie auch verdient. Also, die sind, also Amar zum Beispiel am Anfang des Films hatte er überhaupt gar kein Geld. Der ist dann während des Films ist er halt so berühmt geworden.
En fait, les autres, non, ils n'avaient pas forcément l'argent. Ils sont privilégiés parce qu'ils sont maintenant très aimés et très connus. Mais Amar, par exemple, au début, il n'avait pas un rond. Et voilà. J'aurais aussi une question.
Vas-y, Sabine.
par rapport, c'est Bernard, non? Par rapport à cette histoire de femmes, on a entendu de l'Égypte, pas mal à la place Tahrir, déjà qu'il y avait beaucoup de femmes. Ça, on ne voit pas du tout dans le film. Et on a entendu aussi pas mal d'histoires, des sales histoires, c'est-à-dire des viols ou des agressions sexuelles, etc. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Et est-ce que aussi tu as une explication pourquoi en Égypte, c'était particulièrement fort? Parce que en Iran, quand il y avait la révolution verte, on ne parlait pas autour de ça. Il y avait énormément de femmes aussi. En Tunisie, de toute façon. Voilà, je vais traduire.
In der Masse, auf der Straße unterwegs sind. Ich versetze meine Frau leider. Und hast du eine Erklärung, warum das in Ägypten besonders stark ist? Zum Beispiel in Iran, weil ja auch die Kohlenrevolution noch mal weniger von sowas gehört. Und in Tunesien auch nicht.
Also erstmal ist Ägypten das Land der meist mit der höchsten und Frauen Sexual Harassment Quote auf der Welt.
L'Égypte est le pays qui a le taux le plus haut des agressions sexuelles au monde.
Und in Kämpfen sieht man natürlich wenig Frauen, ist ja klar. Ich meine, das ist sehr gewalttätig.
Dans les luttes même, on voit très peu de femmes, ce qui est normal parce que c'est vraiment beaucoup de.
Es war wahnsinnig schwierig, eine Frau zu finden. Ich meine, das gleiche künstlerische Power hat wie Amar oder Ghazir. Poseidon hat das, war sehr relativ behütet. Sie hat mir auch ständig erzählt, dass sie ständig versucht wurde, zu unterdrücken, als Kind, als Jugendliche. Ja, es gab ständig diese, wie sie sich zu verhalten hat von ihren Lehrern und ständig gab es natürlich Stress. Aber sie war relativ privilegiert und sie hat sich dem einfach nicht gefügt. Sie hat einen sehr großen Widerstandswert. Die meisten Frauen, die kriegen von klein auf gesagt, wie sie sich zu verhalten haben, können sich auch gar nicht richtig entfalten. Ja?
C'était vraiment très difficile de trouver des femmes exemples, et même cette chanteuse, elle m'a raconté souvent, comme depuis tout petit, elle était opprimée, on lui disait comment se comporter, etc. Donc elle avait l'impression, c'était un fait qu'elle a dû, même dans son parcours de privilégié, elle a dû se révolter beaucoup.
In dem Moment sind die Frauen natürlich im Film besonders tapfer auch. Also, sie sind schon sehr besonders, sind sehr mutig.
Couplé avec ça, il faut dire que les femmes dans le film sont particulièrement courageuses, vraiment très courageuses.
Bah, merci beaucoup, Marco, d'être venu. Dankeschön. voilà, merci beaucoup. Vous auriez remarqué que ce film nous a aussi fait la transition avec le thème de la guerre qui commence aujourd'hui. Et nous allons continuer à explorer la question des femmes dans la guerre et donc aussi de la question de l'intégrisme islamiste, etc., dans les films que nous verrons tout au long de ces deux jours. Donc, merci beaucoup à Marco, merci à Sabine Huppert qui a pris cette traduction au pied levé depuis hier soir. Et une question de Yuan.
Une information.
Je voulais juste dire pour ceux qui avaient envie de voir le film et qui n'avaient pas pu le voir hier, et qui ont du coup envie de le voir, ce film est rediffusé vendredi 10 à 10h30 le matin.
Et il est à voir dans le off aussi.
Et dans le off.
Il est à voir dans le off et ouais. aussi. Mais je vous conseille sur grand écran, quand même. C'est mieux.
Merci, Johan.
Merci.
On retrouve.